VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du vendredi 15 janvier 2021. Abdourahman Dia à la présentation, voici les titres. Attaque meurtrière des rebelles ADF en Ituri, dans l'est de la RDC. Au moins 46 personnes ont été tuées. L'opposant ougandais Bobi Wine revendique la victoire à la présidentielle. Les premiers résultats officiels donnent le président Museveni largement en tête. Pandémie du Covid-19, le bilan continue de s'alourdir. Des pays comme le Sénégal et le Nigeria annoncent des campagnes de vaccination pour bientôt. Le président élu des États-Unis, Joe Biden, dévoile un plan de relance économique de près de 2 000 milliards de dollars. Également, dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, 46 pygmées ont été tués hier dans une attaque des combattants du groupe armé Force démocratique alliée, ADF, dans la région troublée de l'Ituri, dans le nord-est du pays. Le point avec Eddy Issongo.
Les victimes sont toutes des pygmées. Les ADF en ont tué 46 et blessé 2 autres, indique la société civile du lieu. Les autorités locales confirment le bilan de cette attaque hier dans la chefferie des Walese Vonkutu à la frontière avec le Nord Kivu dans l'Est. Les ADF sont installés dans cette partie de la RDC depuis 1995. Ils s'opposent au régime de Yoweri Museveni, mais n'ont jamais mené d'attaque contre l'Ouganda depuis des années. Ils sont accusés de la mort de plus d'un millier de civils depuis octobre 2014 dans la région de Beni, au Nord Kivu et ses environs. Les ADF ont fait allégeance au groupe État islamique qui revendique certaines de leurs attaques. Selon un rapport de l'ONU, ces rebelles dispersés par l'offensive de l'armée régulière opèrent maintenant en petits groupes mobiles. Leurs attaques contre les positions de l'armée et de la force de la MONUSCO ont fait des dizaines de morts.
Le nombre de personnes ayant fui les violences en Centrafrique depuis décembre a doublé en une semaine pour atteindre désormais 60 000 personnes. L'OHCR, qui a donné ces chiffres, appelle à une cessation immédiate de toutes les violences en République centrafricaine et au retour immédiat au dialogue. L'agence onusienne a aussi indiqué qu'elle et ses partenaires disposaient d'informations sur les abus commis par les groupes armés, y compris des violences sexuelles, des attaques contre les électeurs et des pillages. En Ouganda, les premiers résultats de la présidentielle d'hier effectués sur la moitié des bureaux de vote donnent l'avantage au président sortant Yoweri Museveni avec près de 63% des voix contre 29,34% pour Bobi Wine. Le jeune député a revendiqué la victoire et dénonce des irrégularités. Le point avec Nathalie Barche.
Lors d'une conférence de presse à Kampala, où les réseaux sociaux sont suspendus, Bobi Wine a rejeté ses premiers résultats, affirmant avoir largement vaincu M. Museveni, qui brigue un sixième mandat après 35 ans au pouvoir. Le député de 38 ans a déclaré avoir reçu des milliers de rapports d'irrégularités qu'il a promis de partager lorsqu'Internet serait rétabli. Même avec toutes les irrégularités, nous avons acquis une avance confortable, a-t-il affirmé. Sa maison a été entièrement bouclée par des centaines de policiers. Le porte-parole de Bobi Wine affirme qu'il a été placé en résidence surveillée, mais la police n'a fait aucune déclaration. Hier soir, le président de la commission électorale, Simon Biya Bakama, a estimé que ce scrutin présidentiel et législatif s'est généralement déroulé dans le calme dans tout le pays. En début de journée, le trafic s'est fortement réduit dans les rues de Kampala où certains commerces ont fermé leurs portes.
Le premier ministre guinéen Ibrahim Kassori Fofana a remis la démission de son gouvernement au président Alpha Condé, récemment réélu pour un troisième mandat. C'est ce qu'ont indiqué ce vendredi les services de ce dernier. L'officialisation de cette démission a été attendue depuis plusieurs jours. Elle s'inscrit dans le prolongement des législatives du 22 mars 2020 et de la présidentielle du 18 octobre, remportée par le président Alpha Condé et sa coalition au pouvoir. Le Sénégal a franchi la barre des 500 morts du Covid-19 officiellement déclarés et prévoit de commencer d'ici fin mars à vacciner les publics prioritaires. Nous faisons le point de la situation dans le monde avec Yacouba Ouédraogo.
Le Sénégal a annoncé 10 nouveaux décès dus au coronavirus, portant à 506 le nombre de morts. Nous nous projetons dans un chronogramme qui nous permettra de débuter la vaccination avant la fin du mois de mars, a indiqué Abdoulaye Ndiaye, directeur national de la prévention. Les personnes âgées de plus de 60 ans, celles présentant des maladies chroniques et le personnel de la santé seront les premiers à être vaccinés. Le pays a déclaré plus de 22 300 cas de contamination. En Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson exhorte les Britanniques à respecter strictement le confinement en vigueur. La France a enregistré en 2020 quelque 53 900 décès de plus qu'en 2019, soit une surmortalité de 9%. La Chine a placé en quarantaine plus de 20 000 habitants de zones rurales. Au moins 35,61 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 ont été administrées dans le monde, dans au moins 58 pays. Les États-Unis ont vacciné 9,69 millions de personnes. La pandémie a fait près de 2 millions de morts dans le monde sur plus de 93 millions de contaminations.
Par ailleurs, les autorités nigérianes ont mis en garde vendredi contre la circulation de faux vaccins contre le Covid-19 dans le pays, où 10 millions de doses devraient arriver au mois de mars. Nous avons reçu des informations selon lesquelles de faux vaccins sont en circulation au Nigeria, a déclaré la chef de l'Agence nationale de contrôle qualité. Nous appelons le public à être vigilant et rappelons qu'aucun vaccin contre le Covid n'a pour l'instant reçu la validation du gouvernement, a-t-elle souligné. Rappelons également que les compagnies privées n'ont pas le droit de commander de vaccins en dehors des circuits officiels.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président élu Joe Biden a dévoilé hier soir un nouveau plan de relance d'urgence de 1900 milliards de dollars. Objectif, sortir le pays de la crise. Il va être suivi dans les prochaines semaines d'un plan d'investissement pour relancer l'économie. Les précisions avec Jacques Aristide.
On ne peut pas se permettre de rester les bras croisés.
C'est en ces termes que Joe Biden a présenté depuis son fief de Wilmington dans le Delaware ce plan de sauvegarde. Chèque aux familles, fonds pour ouvrir les écoles, argent pour accélérer tests et vaccins, liquidité pour les petites entreprises, ou encore aide alimentaire renforcée, les mesures doivent répondre à l'urgence et empêcher le pays de s'enfoncer plus avant dans la crise. Viendra ensuite un plan d'investissement dans l'économie verte dont les contours seront précisés dans les prochaines semaines. Il s'agira alors de créer les millions d'emplois manufacturiers bien payés. Le président élu, qui va être investi mercredi prochain, a pour cela repris à son compte le Made in America, cher à Donald Trump.
Imaginez un futur fabriqué en Amérique, entièrement fabriqué en Amérique, et entièrement par les Américains, pour reconstruire l'Amérique.
Et Joe Biden de conclure.
Nous achèterons des produits américains soutenant des millions d'emplois industriels américains.
Plusieurs centaines de candidats à l'exil ont formé jeudi au Honduras une caravane de migrants qui entend se rendre à pied aux États-Unis via le Guatemala et le Mexique avec l'espoir d'être autorisés à entrer par le futur président américain Joe Biden. Le Honduras a mobilisé 7000 policiers pour encadrer ces groupes de migrants durant leur périple jusqu'à la frontière guatémaltèque. De son côté, le gouvernement mexicain a averti qu'il ne permettra pas l'entrée illégale sur son territoire de caravanes de migrants et qu'il continuera de s'en tenir à sa législation migratoire et au protocole sanitaire établi. Le gouvernement néerlandais du Premier ministre Mark Rutte a démissionné en raison d'un vaste scandale sur les allocations familiales. L'affaire survient 2 mois avant des élections législatives prévues le 17 mars. Des milliers de familles ont été accusées à tort de fraude aux allocations familiales avant d'être contraintes à les rembourser, ce qui a plongé une partie d'entre elles dans de graves problèmes financiers. Nombre d'entre elles ont en outre fait l'objet d'un profilage ethnique sur la base de leur double nationalité. La justice écossaise a rejeté vendredi l'appel formé par la famille de l'unique condamné de l'attentat de Lockerbie en 1989, le Libyen Abdelbasset Ali Mohamed Al-Mekrahi. Sa famille a décidé de faire appel devant la Cour suprême britannique dans les 14 jours. Agent des services de renseignement libyens, M. Mekrahi avait toujours clamé son innocence et elle avait été condamnée à la prison à vie avec un minimum de 27 ans pour l'attentat à la bombe contre un Boeing 747 de la Pan Am qui avait fait 270 morts. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée ce soir par John Lyndon.
Au Niger, la direction du Trésor et de la comptabilité publique a levé le 14 janvier 2020 au niveau du marché financier de l'UEMOI 22 milliards de francs CFA à l'issue de son émission d'obligations assimilables du Trésor de maturité 36 mois. Les fonds obtenus rentrent dans la stratégie du gouvernement nigérien d'assurer la couverture des besoins des financements de son budget. La Côte d'Ivoire a pu collecter 2346,5 milliards de francs CFA d'impôts en 2020 sur un objectif de 2295,9 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 102% selon la Direction générale des impôts. La direction des impôts s'est fixée pour 2021 un objectif de collecte de 2738,9 milliards de francs CFA pour le compte du budget programme estimé à 8621,1 milliards de francs CFA. Au Cameroun, le gouvernement annonce le lancement d'un programme de reconstruction dans l'extrême nord du pays. La première phase de ce programme est de 150 milliards de francs CFA. Depuis 2014, les attaques de Boko Haram dans cette région ont fait entre 2000 et 3000 morts. Plusieurs centaines de personnes ont aussi dû fuir leur maison, dont quelques dizaines de milliers réfugiés au Nigeria voisin. Deux multinationales françaises et italo-suisses, Boluda et Terminal Investment Limited, demandent au port autonome de Douala de respecter les clauses contractuelles liées aux activités de remorquage et d'exploitation du terminal à conteneurs.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Demain s'ouvre le championnat d'Afrique des nations CHAN au Cameroun. C'est le premier grand tournoi de football africain organisé depuis l'apparition du Covid-19. Malgré la recrudescence de l'épidémie, elle doit servir de tour d'échauffe avant la compétition reine du continent, la Coupe d'Afrique des nations CAN, qui se jouera en janvier 2022 également au Cameroun. Dans la partie magazine de cette édition, nous reviendrons sur l'ambiance à Yaoundé à la veille du match inaugural entre le Cameroun et le Zimbabwe. Une femme à la tête du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, la sénatrice Mariam Dao Gabala, a été choisie par la FIFA pour présider ce comité de normalisation de la FIF. Ma plus grande force, c'est d'avoir été loin de ce football, donc loin de ce milieu. C'est justement pour cette raison, je pense, que les dirigeants de la FIFA ont eu confiance en moi. Je ferai tout ce qui est possible pour réussir cette mission, et ce, grâce à l'appui de tous les acteurs, a affirmé Mme Gabala. Le rejet par la FIFA de la candidature de Didier Drogba a plongé le football ivoirien dans une crise à rebondissement depuis 6 mois, suscitant l'intervention de la FIFA. La FIFA, justement, a chargé le comité de normalisation de gérer les affaires courantes de la FIFA, réviser ses statuts et son code électoral et organiser l'élection des nouveaux comités exécutifs. Direction Le Caire en Égypte pour parler du mondial masculin de handball qui s'y tient. Aujourd'hui, le Qatar a battu l'Angola 30-25. À suivre, entre autres matchs ce soir, RDC-Argentine. Hier, l'Algérie a battu le Maroc 24-23 dans le derby maghrébin de ce tournoi. La Slovénie a dominé la Corée du Sud 51-29. La grosse performance est à mettre à l'actif de la Suisse, invitée de dernière minute au Mondial en remplacement des États-Unis touchés par le Covid-19. Les Suisses ont surpris l'Autriche 28-25 le jour même de leur arrivée au Caire. L'un des joueurs du Danemark, Emil Jakobsen, a été testé positif au Covid-19. Les organisateurs du Mondial ont alors décidé de tester tous les jours dès demain l'ensemble des délégations ainsi que les arbitres officiels et les responsables et techniciens. Les joueurs sont testés après chaque match, soit tous les deux jours, en plus de l'Égypte, pays hôte, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, l'Angola, le Cap-Vert et la République démocratique du Congo représentent l'Afrique à cette 27e édition qui prendra fin le 31 janvier. Dans la partie magazine de cette édition, nous vous proposons un focus sur la Tunisie et sa culture du handball solidement ancrée grâce à un système de formation performant.
Merci à Kouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Retour sur le nouveau plan de relance d'urgence dévoilé hier soir par Joe Biden, le président élu américain. Il s'agit d'un plan de 1 900 milliards de dollars avec pour but de sortir les États-Unis de leur pire crise depuis les années 30 et qui sera suivi dans les prochaines semaines d'un plan d'investissement pour relancer l'économie américaine. Le tout pour compenser les dégâts économiques de la crise sanitaire du coronavirus et accélérer la lutte contre la pandémie. Pour un décryptage, Jacques Aristide s'est entretenu avec le politologue et économiste Jean-François Seznec de l'Atlantic Council.
Écoutez, je pense que c'est un bon plan, c'est absolument nécessaire pour essayer de sortir le pays du problème économique qui commence à peser vraiment sur tout le monde. Et ça va effectivement aider beaucoup. C'est un plan qui a des risques, bien sûr, mais c'est un plan important.
Ce plan d'urgence sur fond d'une pandémie qui continue de faire des ravages, tant sur le plan humain qu'économique, ici aux États-Unis, va être suivi dans les prochaines semaines d'un plan d'investissement pour relancer l'économie. À quoi faudra-t-il s'attendre?
Je pense que ce nouveau plan que Biden et ses adjoints essayent de mettre en place, c'est de 2000 milliards de dollars en plus de celui que vous avez mentionné tout de suite. Effectivement, c'est un plan qui va essayer d'augmenter l'infrastructure aux États-Unis, d'améliorer tout ce qui est transport, de développer tout ce qui est énergie moderne, solaire, hydrogène, le vent, les énergies créées par le vent, etc. Tout ça, c'est très bien, ça a de très bonnes choses. Et il veut aussi faire augmenter tous les salaires et les salaires minimums garantis et encourager le développement des syndicats. Alors tout ça, c'est une très bonne chose, mais bien sûr, c'est quand même des montants énormes. Et on oublie peut-être quand même, on n'ose pas dire comment ça va être financé encore.
Et pour cela, le président élu, dont le discours d'investiture va être marqué par le thème « Unité » mercredi prochain, c'est lui-même qui l'a dit, alors il a repris à son compte le « Made in America » cher à Donald Trump. Imaginez un futur fabriqué en Amérique, entièrement fabriqué en Amérique et entièrement par des Américains, c'est ce qu'il a dit. Du point de vue politique, est-ce une manière de tendre la main aux millions d'Américains qui ont voté pour Donald Trump?
Ah, tout à fait. Le plan de relance de l'économie, c'est un plan qui est, en fait, ferait très plaisir à Trump s'il avait pu pouvoir faire quelque chose comme ça. C'est aussi un plan qui est quand même très localisé sur les États-Unis, centré sur les États-Unis, et qui, en fait, implique que nous partirions de l'Organisation mondiale du commerce. Et ça, ce serait assez délicat parce que ça nous mettrait en tension vraiment importante avec nos alliés européens et asiatiques dont on a besoin pour essayer justement de faire concurrence à la Chine. Alors il y a un peu une opposition, si vous voulez, entre ce qu'on peut faire et ce qu'on aimerait faire et pour la politique internationale. Donc ça ne va pas être si facile que ça. En plus, je pense qu'il va y avoir ça va poser un énorme risque d'inflation dans le pays parce que amener 4 000 milliards de dollars comme ça sur le marché, c'est quand même énormément d'argent et ça va faire, à mon avis, ça pourrait faire monter les prix et gêner tout le monde, en fait.
C'était le professeur Jean-François Seznec, joint de la ville d'Annapolis dans l'État du Maryland.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Dans un sondage CBS YouGov, 21% des républicains déclarent qu'ils approuvent l'assaut meurtrier du Congrès américain par des partisans du président Donald Trump. Beaucoup d'autres pensent que les élections de novembre ont été truquées, alors que les États-Unis se dirigent vers une transition turbulente. L'histoire d'une nation divisée et en colère dans ce reportage de Patsy Widakuswara. Et c'est un récit de John Lyndon.
C'est une scène qui a horrifié les Américains. Plusieurs sondages montrent que la grande majorité du pays a critiqué les partisans du président Donald Trump qui ont fait irruption au Capitole le 6 janvier. Jenny Kerhoff, républicain.
Quand je me suis réveillée ce matin-là et que j'ai vu sur CNN que c'était le jour le plus sombre de l'histoire américaine, j'avais mal à l'estomac.
Mais un sondage CBS YouGov cette semaine montre que 21% des républicains, c'est-à-dire des millions d'Américains, ont déclaré qu'ils approuvaient des auteurs de l'assaut. Et selon le dernier sondage PBS News à Omar Harris, 35% des Américains disent ne pas faire confiance aux résultats des élections de novembre, même s'il n'y a aucune preuve de fraude généralisée. Steve Phillips, fondateur de l'organisation La démocratie en couleur.
C'est un gros mensonge. Si vous le répétez encore et encore, les gens commencent à croire que c'est vrai. C'est ce qui se passe avec le président et ses partisans au Congrès.
Pas crainte de nouvelles violences, plus de 15 000 soldats de la garde nationale ont été déployés à Washington pour assurer la sécurité le 20 janvier lors de l'investiture du président élu Joe Biden. Cette semaine, la Chambre des représentants a mis en accusation le président Trump pour incitation à l'insurrection, la deuxième fois de son mandat. Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants.
Les oui sont 232, les non sont 197.
Alors que le président approche de la fin de son mandat, le pays reste divisé. Si de nombreux intellectuels font des parallèles avec les périodes de la fondation du pays et de la guerre civile, il y a tout de même une différence. Vanessa Pisley de l'Université Vanderbilt.
Ces deux périodes rappellent un moment où ne comptait comme citoyen que des hommes exclusivement blancs. Donc, nous pensons à qui est le peuple américain et comment cela a changé au fil du temps. Il est également vrai que l'histoire nous sert de guide pour réfléchir aux choses qui devront être mises en place pour rendre ce moment transformateur. Il est clair qu'un président puissant, puissant dans le sens de la compréhension du symbolisme dans sa fonction et qu'il représente tout le peuple américain, c'est l'un des ingrédients nécessaires dans cette ambiance.
Bien que Biden a continué avec le message d'unité sur lequel il a fait campagne, il fera face à des défis de taille pour guérir une nation divisée et en colère. Steve Phillips de l'association Démocratie en couleur.
C'est un moment très similaire à l'après-guerre civile. Nous avons eu des grandes luttes et batailles sur ce que doit être ce pays. Et maintenant, nous allons essayer de promouvoir un programme autour de la construction d'une démocratie multiraciale, comme nous l'avons fait avec la reconstruction, ou allons-nous continuer à masquer ces différences et essayer simplement de nous excuser sans accepter le fait qu'il y a une profonde inégalité et injustice dans ce pays.
Alors que le pays reste très divisé, l'investiture de Joe Biden le 20 janvier se fera pendant une nouvelle flambée de COVID-19 aux États-Unis.
Le CHAN 2021 s'ouvre demain samedi au Cameroun. Ce tournoi dédié aux joueurs qui évoluent dans les championnats locaux de football va se dérouler sur 3 sites dans un environnement de restrictions sanitaires à cause du COVID-19 et de conflits dans les régions anglophones. Mais les Cameroun n'entendent pas manquer ce rendez-vous. Ton reportage sur place à Yaoundé avec notre correspondant Emmanuel Jultap.
Dans les locaux du ministère des Sports, l'un des points de vente des billets lors du CHAN 2020. Les tickets du match d'ouverture s'arrachent comme des petits pains. Ariane Mimissé est vendeuse des billets du CHAN 2020.
J'avais au départ 116 billets et à l'heure actuelle, je n'en ai plus que, je pense, une trentaine. Hein. Donc c'est parti en quelques minutes, moins de 30 minutes.
Mais l'accès au stade Omnisports de Yaoundé sera limité. La CAF a concédé au Cameroun un taux de remplissage des stades de l'ordre de 25% pour les matchs du premier tour à cause de la pandémie du coronavirus. Michel Dissakembarga, directeur du tournoi Chan 2020.
Lorsqu'on parle de 25%, c'est 25% des spectateurs, des équipes, des journalistes et tout le monde. Ça qui fait 25%. Donc si ces différentes conditions ne sont pas respectées, nous risquerons partir de 25% à 0%. C'est une équation à résoudre parce que la CAF aura des inspecteurs. Si nous validons ce contrat, on pourra maintenant monter à 50% pour les demi-finales et les finales.
L'engouement des Camerounais pour leur équipe nationale ne semble pas pour autant faibli. Dans les rues, les fans arborent le maillot des Lions et des gardiens du Cameroun sont visibles partout dans la ville. Les Camerounais sont confiants. Fritz Watoni, supporter des Lions indomptables.
Nous les Camerounais, on serait là-bas. Moi j'ai déjà acheté mon ticket. Je suis prêt pour demain. Je sais qu'on va peut-être dans le premier match.
Malgré de mauvaises contre-performances lors des matchs amicaux, Martin Belingazwa croit à une belle performance des A' dès ce samedi.
Elle a toujours été jouée ailleurs, mais elle est attendue au Cameroun depuis belle lurette.
Le Burkina Faso a déjà pris ses quartiers à Yaoundé. L'équipe se retrouve dans la poule du Cameroun. Le Burkina joue contre le Mali lors de son premier match samedi. Aboubakar Sawadougou, capitaine de l'équipe nationale Burkina A'.
On est là pour un objectif. Voilà, c'est vrai, on s'est qualifié deux fois. On n'a pas pu passer la phase de poule. Je pense qu'on s'est donné comme objectif dans cette compétition, d'abord de passer le premier tour, voilà, et d'envisager vraiment aller le plus loin possible dans cette compétition.
Les séparatistes anglophones ont menacé de perturber le déroulement de cette compétition à Limbé et Boya, dans la région du Sud-Ouest. Le gouvernement, pour sa part, d'y avoir pris toutes les mesures pour garantir la sécurité de tous jusqu'au 7 février prochain. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le mondial de handball s'est ouvert en Égypte mercredi dernier. En plus du pays hôte, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, l'Angola, le Cap-Vert et la République démocratique du Congo représentent l'Afrique à cette 27e édition qui prendra fin le 31 janvier. Nous faisons un focus ce soir sur la Tunisie et sa culture du handball solidement ancrée grâce à un système de formation performant. Yacouba Ouedraogo.
Manier ces ballons de handball est presque devenu une tradition pour les jeunes Tunisiens, de plus en plus friands de la discipline. C'est le fruit d'une politique nationale claire au point d'en faire le deuxième sport le plus populaire dans ce pays du Maghreb, après le football. Tout a commencé il y a une trentaine d'années. Riyad Sana, coach des gardiens de but de l'équipe nationale de la Tunisie.
Les années 90 ont vu la révolution du handball. J'appelle cela une révolution parce que l'infrastructure a beaucoup changé. La stratégie ainsi que la politique de l'État ont changé. Quand on parle de changement de politique, on parle de centres de formation et des centres de promotion, clubs et formateurs en premier.
Les clubs ciblés, les clubs formateurs.
Le gouvernement tunisien a créé ces centres de formation au sein des clubs et les a obligés à consacrer 20% de leur budget à ces centres, devenus des pépinières pour les jeunes. Malgré l'existence de ces centres formels d'apprentissage, certains ont dû tracer leur chemin dans la rue. C'est le cas du gardien de l'équipe nationale Marwan Magaes, qui se souvient de ses débuts dans la rue, dans les quartiers populaires de Beni Kiara, où il a grandi.
Nous jouons au handball dans les rues. Parfois, nous jouons à minuit et même à 1h du matin. Je me souviens que c'était avec Sobhi Saïd et tout le groupe. Donc, quand nous avons rejoint El Bat Sportif Beni Kiara, nous étions prêts.
Apprendre dans les centres ou dans la rue, les résultats sont là. La Tunisie est devenue la nation la plus titrée d'Afrique avec 10 trophées continentaux, le dernier en date en 2018. Elle a aussi participé aux derniers Jeux olympiques où elle a fini 8e en 2012 et 12e en 2006. Elle n'est jamais jusqu'ici montée sur le podium d'un mondial, échouant en 2005 d'un but 26-25 face à la France pour la médaille de bronze dans le tournoi qu'elle a accueilli. Vice-championne d'Afrique 2020, Elle a été battue par l'Égypte, l'une de ses deux rivales historiques avec l'Algérie. Sami Saidi, coach principal de l'équipe nationale de la Tunisie.
Le handball en Tunisie a eu une histoire. Nous avons remporté beaucoup de titres africains. Nous avons été présents à tous les récents championnats du monde et nous sommes parmi les 15 meilleures équipes du monde. La Tunisie a toujours été classée entre la 10e et la 15e place mondiale.
Mais au-delà du résultat final du tournoi, Sami Saidi appelle à profiter de ce mondial organisé en Égypte voisine pour attirer plus d'adeptes et leur faire aimer ce sport.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Lionel Gaïma, Michel Joseph, Georges Léonard Sagnot et Joselle Morissin. À la présentation, Abdourahman Dia. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.